Saint-Esprit, nous t'accueillons. Jésus, tu as dit à tes apôtres qu'il valait mieux que tu retournes au Père parce que tu enverrais le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit nous rappellerait tout ce que tu as dit. Toi seul, Saint-Esprit, peux sonder le cœur du Père et le cœur de l'homme. Aussi, nous t'invitons, cher Saint-Esprit. Nous plaidons le sang maintenant sur nous tous et nous te disons, cher Saint-Esprit, viens, conduis-nous, instruis-nous. Illumine les yeux de nos cœurs. Nous t'écoutons. Seigneur, nous voulons écouter ta parole, nous laisser interpeller par toi, parce que nous savons que les temps pressent. Amen. Ça sera plus une exhortation ce matin qu'un message bien coordonné. Et le Seigneur m'avait mis à cœur deux pensées, alors j'ai cherché, j'ai ressorti différents livres et je vous en donnerai quelques références et je vous conseillerai d'y retourner aussi. Et l'un, c'est l'offense, arme cachée de Satan. Très, 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 mais très important. Si vous ne l'avez jamais lu, il est très facile. Il se lit très bien, mais pas en une fois. C'est de John Bever. Quand nous, ça a vraiment, on a vécu des choses très difficiles au niveau de l'œuvre de l'établissement scolaire privé Daniel. J'étais partie avec ça à Noël. J'ai dit, Seigneur, parfois les blessures, les combats sont rudes et parfois on est au sol. Mais par la grâce de Dieu, on l'a chanté tout à l'heure, Jésus est vivant et il nous a donné des consignes très claires pour rester en vie. Et j'aimerais les partager avec vous. Parce que si on respecte le code, on est invincible. Si on respecte le code d'honneur, nous sommes invincibles. Nous sommes éternels. Jésus a été engendré et non créé, de la même nature que le Père. Il est venu jusqu'à nous, mais dans un but bien précis. Le monde n'a pas été créé au hasard. Est-ce que vous croyez que le monde a été créé pour que vous alliez bosser le matin, que vous entriez le soir crevé, que vous n'avez même plus le temps de vous occuper de vos enfants, et ne parlons même pas, vous n'avez même pas le temps d'adorer Dieu, parce que vous êtes tellement épuisé. Et en plus de nos jours, avec le témoignage qu'on a eu samedi, non seulement on bosse comme des malades, mais en plus on n'a même pas de quoi boucler les fins de mois. Non mais oh, réveillons-nous! Qui sommes-nous? Allô? On est appelé à vivre dans quel monde? Dans le monde des limites humaines, pour aller dans un trou? Ou est-ce que nous sommes appelés à vivre par l'esprit, dans la dimension éternelle? Parce que nous savons que nous sommes préparés pour l'éternité. Luc avait l'habitude de commencer ses cours avec les élèves. Il traçait une ligne au tableau, et il mettait un point au milieu. Il disait, voilà, notre vie sur Terre, c'est ce point au milieu. D'accord ? Nous sommes des êtres et éternels. Nous sommes des êtres éternels. Nous sommes chéris par le Créateur. Tellement chéri qu'il s'est déplacé lui-même, qu'il a supporté l'insupportable pour nous racheter pour lui. Et pourquoi le Père a accepté cette souffrance de voir son fils abandonné aux enfers pendant 3 jours? Mais la mort n'a pas pu le retenir. Pourquoi? Parce qu'il visionnait l'épouse pour son fils. Il visionnait l'épouse pour son fils. Et moi, j'ai 2 versets qui sont dans mes entrailles depuis... Je suis convertie depuis 30 ans, mais je dirais ces versets au moins depuis 20 ans. L'église sans tache ni ride. Jésus va venir chercher une église sans tache ni ride. Et ensuite, l'autre verset, plus de 20 ans, parce que ça, c'était déjà à Pierre Vivante. Dieu bâtit une église et les portes de l'enfer ne prévalent pas contre elle. Et je ne vais plus le dire au futur, parce que ça a été dit au futur, parce que Jésus n'était pas encore mort quand il l'a dit. Mais maintenant, Jésus est mort, il est ressuscité. Alors c'est plus du futur, mes amis, c'est du présent. Les portes de l'enfer ne prévalent pas contre l'Église. Mais c'est quoi l'Église, les amis? Et pourquoi on est si souvent dans la défaite? C'est quoi l'Église? La vraie Église, c'est quoi? C'est le corps de Christ. Et ce corps de Christ, il est devenu corps comment? En travaillant dur toute la semaine? En cravachant au boulot? En étudiant fort? En sondant les Écritures beaucoup, beaucoup? En passant des heures dans la prière? Est-ce que c'est comme ça qu'elle est née, l'Église? Elle est née comment, l'Église? Du côté percé de Jésus. Il est né du côté percé de Jésus, mes amis. Vous êtes nés du côté percé de Jésus. Ça veut dire quoi? Ah, il y a quelque temps, le Seigneur me montrait. Il a endormi Adam et il a dit, je vais te faire une aide semblable à toi. Parce que il n'a pas trouvé dans la création de personnes qui lui correspondaient. Mais vous savez que pour Dieu, c'était pareil. Il a créé les anges, et il y en avait un qui était son ami très proche, son ami intime, c'était Lucifer. C'était le plus proche de Dieu. Et c'était quoi son job? C'était de récolter toute la gloire, l'honneur, la louange, et de la ramener à Dieu. Mais à force de faire ça, ouf, ses chevilles ont enflé, mes amis. Waouh ! Qu'est-ce qui s'est senti important ? Et tout d'un coup, il a dit, ah, c'est moi le meilleur, regardez comme je suis beau ! Il avait tellement l'habitude de tremper dans la gloire de Dieu qu'il en a oublié Dieu. Il en a oublié l'intimité avec son Créateur. Et alors, il s'est enflé ! Il s'est tellement enflé qu'il est dit dans la parole, dans Ézéchiel, qu'il a voulu bâtir sa montagne au-dessus. Il a voulu mettre son trône au-dessus de celui de Dieu. Mais quel... C'est hallucinant. Mais il était aveuglé. Comment peut-on mettre notre trône au-dessus de celui de Dieu? Celui qui est l'alpha et l'oméga. Donc, au lieu de mettre sa confiance en Dieu et de continuer à aimer Dieu, il a chéri la gloire et il l'a gardée pour vous. Alors, qu'a fait Dieu? Ça, vous le trouvez entre autres dans le psaume 8. Il est dit qu'il a endormi donc Adam. Il a fait cette aide semblable à lui. Il nous est dit dans Genèse que nous sommes faits à son image. Et Jésus, comme Adam, a dormi 3 jours. Enfin, il n'a pas dormi parce que lui, il a combattu dans les enfers. Mais c'était aussi 3 jours, il a dormi. Il a été endormi dans la mort et de là, Dieu a fait une épouse pour lui. Elle sort de son côté. Donc voilà, nous sommes sortis de son côté. Et ce que je voulais vous dire, les amis, c'est que nous ne sommes pas créés, nous sommes engendrés. Jésus, qui était parfaitement à l'image de Dieu, s'est fait homme. Et il a été juste jusqu'au bout. Il a accompli toute la loi jusqu'au bout. Pour être parfait, et parce qu'il était parfait, l'ennemi, en le tuant, s'est fait avoir. Parce que du coup, lui s'est trouvé coupable. Satan s'est trouvé coupable, parce qu'il a tué le juste. Jusque-là, il avait le droit d'avoir la main sur les hommes, parce que les hommes avaient ce fameux péché qu'on a déjà depuis Adam. Donc là, il avait des droits sur les hommes, mais il n'avait aucun droit sur le juste. Il n'avait aucun droit sur le juste, parce que lui, il a remporté la victoire complète. Et pourquoi ? Par amour, parce qu'il cherche une épouse. Donc simplement, je voudrais vous redire que l'objectif du pourquoi nous sommes sur terre, c'est que Dieu est en train de se choisir une épouse qui sera transgénérationnelle, qui transcende les siècles. Jésus est ce rocher des âges dont le sacrifice a traversé les siècles. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont tellement grandes pour notre petite tête. c'est difficile à caser. Donc on ne peut pas garder juste une perspective. Si on prend la parole que juste dans une perspective, mes amis, on est dans l'erreur. Et c'est comme ça qu'il y a eu tous les abus. Les gens disent « Ah ouais, telle doctrine, et allez que j'y fonce dedans, et j'oublie tout le reste. » Bref, vous connaissez ça, il y en a eu beaucoup. Et j'aimerais vous dire ce matin, je disais « Seigneur, qu'est-ce que tu voudrais ?» Je voudrais simplement vous reprendre 1 Corinthiens 13. Le dernier verset, vous le connaissez tous, je pense. Moi, j'ai eu du mal à me souvenir des trois mots. Qu'est-ce qui va demeurer dans l'éternité? Pardon? La foi, l'espérance et l'amour. Alors, je ne sais pas pour vous, mais je disais, Seigneur, l'espérance? Il y aura encore de l'espérance dans l'éternité? Et il y aura encore de la foi dans l'éternité? Oh oh. Et pour moi, ça fait déjà un moment que j'ai remplacé le mot foi par confiance. Et en fait, je réalisais que la confiance, c'est le mélange de la foi et de l'espérance. Et en fait, on ne peut pas demeurer dans l'éternité si on n'a pas confiance en Dieu. Donc cette confiance en Dieu va demeurer toujours parce que sans elle, on ne peut pas être dans l'éternité. La confiance en Dieu, la confiance en son amour. Et donc l'amour va demeurer à toujours. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on parle beaucoup de maison de prière. Et on parle beaucoup de prière, n'est-ce pas? Mais là encore, si on reste là et qu'on oublie l'amour, nous sommes quoi? Une cymbale qui résonne. Vous savez, il y a plusieurs rayons à une roue. Et n'oublions pas le rayon de l'amour. Parce que c'est cet amour qui va faire qu'on va pouvoir aller au-delà. Et je vais juste vous lire donc un autre livre. Je ne sais pas s'il est encore publié. En tout cas, je ne le prêterai pas parce que je cherchais l'Ultima Source, je ne l'ai pas retrouvé, je l'avais prêté. Celui-ci, là, l'offense à me cacher, je l'ai déjà donné plusieurs fois. Il s'appelle « Ils régneront ». J'avais essayé de le lire dans le passé et c'était trop. C'était trop, c'est carrément le noyau, c'est de l'essence, c'est impressionnant. Mais en fait, il nous parle de toute la destinée de l'Église. Il nous parle, et on le voit dans Romains, comment l'Église est l'objet central et le but de l'histoire. Donc j'aimerais juste qu'on reprenne ce passage. C'est Romains 8. Et vous pourrez y revenir plus tard. Et combien on oublie souvent le pourquoi on est là et on se fait piéger. J'estime en effet qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée en nous. Car la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. En effet, la création a été soumise à la futilité, non pas de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec une espérance. Cette même création sera libérée de l'esclavage du périssable pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Mais pour pouvoir rentrer dans ces dimensions glorieuses, on a des clés. Il y a les clés du pardon. Moi, ce qui me touchait beaucoup, je disais, Seigneur, nous savons que ce que tu es en train de faire, c'est un corps tout entier. L'Église, c'est un corps, ce n'est pas des individus tout seuls. Oui, c'est vrai, nous avons notre part, mais c'est un corps tout entier que Dieu va venir chercher. Et donc, ces clés, c'est quoi? C'est l'amour inconditionnel. C'est le pardon. C'est apprendre à ne pas se juger les uns les autres. Le jugement tue. Et vous savez pourquoi l'ennemi nous piège là? Parce que si on se juge, on se déchoit de la grâce. Ça veut dire que tout d'un coup, on proclame par notre façon d'être que c'est par nos efforts qu'on peut atteindre Dieu. À chaque fois qu'on juge, on annule la grâce. Alors parfois, on se fait blesser, c'est vrai. Et il y a des blessures qui sont terribles. Moi, j'ai failli rester sur le carreau plusieurs fois. Mais à chaque fois, l'amour des enfants, l'amour de Dieu était plus fort. Et alors, je disais, Seigneur, moi, ce que je veux voir, c'est des enfants qui t'adorent. Mais alors, pour ça, il faut que tu guérisses mon cœur. Parce que c'est trop dur. Et Dieu le fait. L'amour, et vous savez, le Seigneur m'a rappelé il n'y a pas longtemps, quand je suis venue au Seigneur, qu'est-ce qui m'a attirée à lui ? C'était son amour. Quand il m'a révélé son amour, j'ai dit, oh là là, parce qu'il nous disait qu'il ne fallait pas avoir de relation avant le mariage. Et moi, j'ai dit à Dieu que je ne connaissais pas, je ne vois pas pourquoi. Où est le problème ? On veut se marier. Pourquoi on n'aurait pas de relation ? Et là, le Seigneur me montre son amour agapé. Cet amour qu'on ne peut pas produire. Et là, j'ai dit, waouh ! J'ai pleuré, c'était la nuit. J'ai dit, moi, c'est cet amour-là que je veux. Alors, si c'est par là qu'il faut passer, eh ben, d'accord, parce que c'est ça que je veux. Alors, les amis, est-ce que vous voulez cet amour de Dieu ? Eh bien, si vous le voulez, il a un prix. Entre autres, c'est le prix du pardon. Pardonner les offenses, c'est dans le Notre Père. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi. Le problème, c'est que parfois on pardonne et on n'oublie pas. Et c'est toujours là, et ça fait mal. Et je vais vous dire, on a appris les quatre piliers il y a quelques années, vous vous souvenez ? Je reconnais d'abord mon tort, je demande pardon ou je pardonne. Parfois, il faut faire les deux. Ensuite, j'abandonne la situation au Seigneur. Je ne la garde pas, je décide de l'abandonner. Ensuite, je demande pardon pour mes contre-réactions. Parce que quand on est blessé, ben parfois on a des contre-réactions. Et c'est pas mieux. Et ensuite, j'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et si vous n'y arrivez pas tout seul, demandez de l'aide. Moi, cet hiver, à Noël, à un moment donné, j'ai une flèche. J'ai appelé Huguette. J'ai dit, Huguette, j'y arrive pas toute seule. Tu veux bien prier avec moi ? Et on n'a pas prié 5 minutes. Hein ? Je crois qu'on a prié au moins 3 quarts d'heure, si ce n'est pas 1 heure. Jusqu'à ce qu'on ait la victoire. Et on ne laisse pas passer les traits enflammés du malin. On décide de rester unis ensemble. Pourquoi l'ennemi veut nous prendre à défaut ? Pour casser cette unité ? Pourquoi casser cette unité ? Parce que sans cette unité, on ne va pas pouvoir être le réceptacle de ce que Dieu veut déverser aujourd'hui. Les ténèbres s'épaississent. Gloire à Dieu. Il veut faire voir sa gloire. Il veut que son épouse brille. Si tout allait bien, vous croyez qu'on verrait l'Église ? Non. Alors réjouissons-nous, la parole elle est claire. Elle le dit plein de fois. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous quand on dira toutes sortes du mal de vous. Réjouissez-vous quand vous êtes dans le feu. Parce que l'or va être épuré et épuré cette fois. Et vous savez pourquoi l'or a besoin d'être épuré ? Parce que quand il est épuré, il est malléable. Si on allie l'or avec un autre métal, il durcit, mes amis. Et dans le feu, nos scories, nos amertumes, nos trucs, ben, ils sont consumés. Gloire à Dieu. C'est pas facile. Ça fait mal. Gloire à Dieu. Mais on a des clés. Et la parole, elle dit pas « racontez-vous tous les maux de la terre ». Regardez comme tout va mal. Elle dit, exhortez-vous par des hymnes, par des cantiques. Quand on se retrouve pour la louange, avec Neftali, à chaque fois on dit, ah bah tiens, moi c'est ce chant qui a résonné dans mon esprit pendant tout ça. L'autre dit, ah bah tiens, moi c'est celui-là. Nos esprits, ils louent Dieu sans cesse. Nos esprits sont connectés avec le Père. Et c'est ça la prière. Et quand Dieu parle d'une maison de prière, alors bien sûr, c'est important d'avoir des lieux où il y a le feu. Mais cette maison de prière et cette habitation vivante, c'est nous les amis. Et une chose qu'il redisait, ou dans ce livre ou dans l'autre que je vous montrerai, le troisième, c'est que Dieu s'est limité lui-même. Il a tout donné. Il a payé un sacrifice parfait. Mais il n'interviendra pas sans nos prières. Waouh ! Réclamons nos voisins, réclamons ceux qui nous font du mal, réclamons nos familles, réclamons notre pays. C'est l'amour de Dieu qui a besoin d'être l'essence de tout. c'est pas par crainte, c'est pas par jugement qu'on va amener les gens à l'évangile. C'est pas comme ça que Jésus a fait avec nous. En tout cas, moi, c'est son amour qu'il m'a révélé. Et récemment, j'avais ce verset qui dit, vous l'avez plusieurs fois dans Apocalypse, Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Il n'a pas fait de nous un royaume de législateurs. Un législateur, c'est quoi ? C'est celui qui juge. Non, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Un roi, ça veut dire qu'il est revêtu de l'autorité. Et un sacrificateur, c'est celui qui plaide, qui demande pardon à la place de l'autre. Moi, ça m'arrive maintenant, quand quelqu'un me fait du mal, et c'est ce que Jésus a fait à la croix. Il a dit, Seigneur, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Mes amis, c'est imparable quand on fait ça. Quelqu'un vous fait du mal, il ne le reconnaît pas, c'est pas grave. Demandez pardon à sa place. Demandez pardon à sa place. On a cette autorité incroyable. Et en faisant ça, on sort nos amis du bourbier. Alors bien sûr, parfois il faudra aller leur parler, évidemment. Mais bien souvent, et moi j'étais de ceux-là, hein. Moi je me souviens, pour ceux qui connaissaient Don Freeman. Et moi je disais, mais il y a ça. Et lui il me disait, mais tu juges. Et moi je disais, non, je dis la vérité. Ben oui, quand on est jeune, on apprend. Mais les jeunes, je voudrais vous encourager. Moi, vous savez comment je me suis fait piéger à un moment donné ? Et j'ai attendu au moins 10 ans, si ce n'est pas plus, pour voir que je m'étais fait piéger. Quand j'étais jeune convertie, le Seigneur vraiment me portait dans ses bras. Malgré tous les problèmes que je pouvais avoir, les liens que je pouvais avoir, j'étais dans cette présence tout le temps. Ce n'était pas facile. Je me suis même faite mettre dehors de chez moi à un moment donné. Je revenais toujours en pleurant de la maison. C'était dur. Mais j'aimais mon Jésus. Et moi, je voulais être là où Jésus était. Et même si je revenais toujours en pleurant, il était avec moi. Et un jour, il m'a dit, tu sais, maintenant, tu as grandi, je vais te poser par terre. Il m'a dit, n'aie crainte, tu ne vas pas me sentir comme avant. Tu ne me sentiras pas toujours là, mais c'est parce que je te pose par terre. Alors j'étais prévenue, donc j'ai continué à marcher, même si je ne sentais plus mon Jésus pareil, et j'ai continué. Mais à un moment donné, 7 ans, j'avais 7 ans de conversion. Je devais avoir 30 ans, 32 ans. Non, moins, qu'est-ce que je raconte ? Non, 7 ans de service, je ne sais plus, peu importe. À un moment donné, je ne sentais plus les choses. J'étais quelqu'un qui pouvait être réveillé par l'esprit, intercéder toute la nuit s'il le fallait. Je ne lâchais pas, j'en ai vu des miracles. Le nombre de guérisons que j'ai vues, je ne peux pas les compter. Mais un jour, je ne sentais plus rien et j'ai cru que j'avais fait quelque chose qui me séparait de Dieu. J'ai cru ce mensonge, les amis. J'ai cru que quelque chose pouvait me séparer de Dieu. Et alors, la puissance de ma prière, c'était fini. J'étais plus basée sur le tout accompli de Jésus. Tout d'un coup, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe ? Et bien là, c'était la foi qui devait prendre le relais. Le fondement dans la parole, le fondement dans la justice. Savoir qui on est, savoir que ce n'est pas par nos forces. C'est pour ça, les amis, soyez bien fondés, sachez qui vous êtes. Parce que là, vous ne lâcherez jamais le morceau. Et exercez la grâce, exercez le pardon. Et... je voudrais juste vous lire un truc, ensuite que j'ai lu. Donc le troisième, je cherchais l'ultime assaut, pour ceux qui connaissent, de Rick Joyner, qui montre comment les gens se font piéger et combien l'ennemi se délecte à utiliser les chrétiens alors qu'ils jugent et qu'ils sont méchants les uns avec les autres, qu'ils manquent de pardon, comme ils se délectent de les chevaucher pour trucider. Alors bon, comme je disais tout à l'heure, c'est pas la peine de... voilà, je l'ai plus. Alors j'ai pris celui-ci, l'appel ultime, que je n'ai pas lu, mais j'ai lu la fin, les derniers, et j'ai trouvé ça très intéressant. Donc il a Humilité, qui était à côté de lui, Rick Joyner était là. Alors j'ai pas trop compris, il était dans la salle du trône, et dans cette salle il y avait des témoins, donc il voyait vraiment ses amis autour de lui, il voyait toute la grâce de Dieu, il voyait la gloire dans les uns, dans les autres, il pouvait voir la gloire de Dieu dans son prochain. Je regardais la cape d'humilité qu'il me montrait. Au milieu de la gloire que je voyais maintenant, elle me semblait tellement plus fade, cette cape d'humilité. J'étais consternée de paraître si misérable en leur présence. Je la déplaçais pour voir l'armure qui était dessous. Elle était plus brillante qu'elle ne l'avait jamais été. Elle était si brillante que plus je la découvrais, plus le groupe en face de moi paraissait pâle. J'enfle. Je suis tellement fort. Les autres deviennent tout pâles, tout petits. Pourtant, je me sentais bien moins gênée par l'éclat de mon armure visible. Je décidai donc d'enlever la cape quelque temps au moins pour ne pas paraître aussi repoussant en présence d'une telle gloire. Un silence se fit et je me tins debout tranquillement quelques instants. J'étais incapable de voir quoi que ce soit à cause de la brillance de ma propre armure. Me voilà aveuglée par la brillance de ma propre armure. Voyez donc comme je suis magnifique, comme je suis fort dans le Seigneur. Regardez donc toutes mes œuvres. Grâce à moi, vous êtes en sécurité. Je ne comprenais pas pourquoi je ne pouvais rien entendre. Il n'entendait plus rien tout d'un coup. Il n'entendait plus sagesse. J'appelais alors sagesse. « Mets ta cape !» me dit-elle. Je le fis et commençai à voir à nouveau, faiblement, les contours de la grande salle. « Seigneur, qu'est-il arrivé à chacun? Pourquoi est-ce si pâle à nouveau? Tu ne peux rien voir ici sans porter ta cape. » La cape de l'humilité. Tu ne peux rien voir sans ta cape. Mais je l'ai mise maintenant et je ne puis encore voir clairement, protestai-je, en sentant monter en moi un terrible désespoir. Oui, parce que quand on a goûté à la gloire, à la transparence, quand on la perd, chaque fois que tu perds ton humilité, tu deviens aveugle à la vraie lumière et tu as besoin de temps pour voir clair à nouveau. Je recommençais à voir la gloire, mais ce n'était rien en comparaison d'avant. Ma vision revenait, mais très, très lentement. J'étais chagrinée plus que je ne puis le dire. « Où est Paul ?» demandai-je. Je sais qu'il allait me dire quelque chose de très important. « Quand tu as enlevé ta cape, tous ceux qui étaient ici sont partis. »« Mais pourquoi ? Pourquoi sont-ils partis ? Simplement parce que j'ai enlevé ma cape ? J'étais juste embarrassée par mon apparence. »« Est-ce que cela les a offensés ?»« Non. » Ils n'ont pas été offensés. Ils savaient que tu ne pouvais ni voir ni entendre à travers eux sans la cape. Aussi sont-ils retournés à leur place. On devient aveugle si on ôte notre cape d'humilité. On ne peut rien voir. Et vous savez, il y a un verset qui dit « Ils ne seraient pas endormis s'ils n'avaient pas fait tomber leur frère ». Il y a des choses, des clés, il y a des règles, il y a un code d'honneur, comme je disais tout à l'heure. Alors, quand il y a quelque chose qui ne va pas, eh bien, traitons-le selon la parole. Et j'aimerais juste reprendre quelque chose, parce que qui est à l'origine de ça, de ce que je vous partage ce matin. On s'est retrouvés mercredi pour un partage autour de la parole. Et Vito a été super parce qu'il nous a donné des travaux pratiques très vite. On était 11, pour ceux qui étaient là, je crois que tout le monde a été encouragé. Et on a tiré au sort un verset ou un passage, et puis il fallait simplement, il nous a donné 20 minutes pour pouvoir travailler avec et le partager. Alors moi j'ai commencé, comme Eric nous l'a appris, pour ceux qui étaient aux outils, tu commences par copier le verset. Alors j'ai commencé par copier le verset. Ouh. Alors que j'ai copié le verset, mes amis, c'était hallucinant, le Saint-Esprit vraiment me parlait. Alors, c'est un passage parce qu'on ne peut pas parler de ces choses sans parler de l'autorité. Vous savez, il nous est dit que Jésus est venu et qu'il a fait tout ce qu'il voyait faire au Père. Quand il était à Gethsémané, les apôtres se sont tous endormis, n'est-ce pas? Il s'est retrouvé seul. Est-ce qu'il s'est plaint? Est-ce qu'il a fait des reproches aux apôtres? Non. Mais un ange est venu. Un ange est venu et il l'a soutenu. Et quand Jésus nous envoie un ange, est-ce pour enlever l'épreuve? Quand Dieu nous envoie un ange, est-ce pour enlever l'épreuve? Est-ce que ça a empêché Jésus de passer par la croix? Non. C'est pour passer au travers de l'épreuve qui a toujours un but en Dieu. Et qui est bien pâle à côté de la gloire à venir, et pour qu'on aille jusqu'au bout. Ne nous laissons pas voler les récompenses par la critique, par le désespoir, par la crainte de l'avenir, par les reproches. Mais tenons ferme, mettons notre confiance en Dieu, et s'il n'y a personne à côté de nous, il nous enverra un ange. Moi, je peux regarder en arrière. À chaque fois qu'on a passé des choses difficiles à l'école, on a commencé avec lui quand on avait 25 ans, quand on a démarré l'école. Eh bien, à chaque fois, il a permis que dans le désert, quelqu'un nous apporte le verre d'eau. Et je me souviens quand c'était tellement difficile, c'est Jule Lewis. Elle a prié pour nous, elle ne savait rien dit, vous savez. Dans le feu, Dieu épure l'or. C'est normal, le feu. Mais ça m'a soulagée, les amis. Ça n'a pas enlevé le feu. Du coup, j'étais dans la joie. Et j'ai pu louer Dieu. Parce que je savais qu'il était en train d'épurer l'or. Et vous savez ce qu'il y a derrière la croix et la mort à soi-même? Il y a la couronne. Il y a le règne. Il nous est dit que nous allons même juger les anges. Mais ce n'est pas le temps de juger maintenant. Pourront juger l'épouse qui aura manifesté l'amour et qui aura su exercer le pardon, demeurer dans la justice de Christ. Vous ne serez pas apte à juger les anges si vous n'avez pas su mettre votre confiance en Dieu, si vous n'avez pas su faire grâce. Alors quand ça fait mal, souvenons-nous notre objectif. Souvenons-nous où Dieu nous emmène. Et vous savez, ce n'est pas nos actions qui vont déterminer notre place dans le royaume. Nos actions dans le sens de nos ministères, l'éducation chrétienne, le sozo, ce n'est pas ça qui va déterminer notre place dans le royaume. C'est nos cœurs, c'est notre amour. C'est notre fidélité. Si on faisait toutes ces choses sans amour, ça ne servirait à rien. Mais si notre moteur, c'est la compassion, et c'est par amour, alors on engrange dans l'éternité. Le salut, il n'y a que le salut qui est gratuit. Je vous disais toujours, le reste, ça se paye. Ça demande des efforts. Ça demande de mourir. Mais qu'est-ce que c'est bon? Qu'est-ce que c'est bon quand on a cette intimité avec Dieu, quand on peut l'entendre? Quand on ne l'entend plus, posons-nous des questions. Je dis, Seigneur, pourquoi je ne t'entends plus? On va dire, hé, là, tu as peut-être un petit truc à régler. Tu as jugé ton frère, ta sœur. Ou tu t'es jugé toi-même. Ou tu t'es senti incapable. C'est pourquoi l'enseignement de la justice est tellement important. Tout part de là. Jésus a tout accompli pour nous. Et c'est de là que tout vient. Et je parlais avec Thierry l'autre jour, et puis alors il nous a dit des choses avec lesquelles nous, en tout cas, au niveau des responsables, on est très clairs. Les gens, ils disent « Ah, l'enlèvement, l'enlèvement, l'enlèvement !» Mais attendez, l'enlèvement, c'est pas ça, c'est pas pour l'enlèvement qu'on est sur terre. « Attention, tu ne seras pas enlevé !» Oh ! D'abord, si on est enlevé, ça sera pour redescendre. Mais c'est pas ça le truc crucial, c'est l'épouse, c'est aimer. Vous vous rendez compte comme on nous a emmenés dans un truc égoïste? Ah ouais, moi je serai enlevée, il y en a d'autres qui sont laissés, du coup j'ai peur pour moi, pour ma petite vie, est-ce que moi je serai enlevée? Et les autres, ben, je m'en fous, tant pis pour eux. Mais moi je suis enlevée. C'est pas ça le cœur de Dieu. D'accord, hein, je crois que... Voilà. Ah oui, moi je me disais que je voulais venir. Je vais juste finir par ça, parce que c'est très intéressant. C'est Jésus avec un centurion. Un centurion avait un esclave malade qui était sur le point de mourir et qui lui était très cher. Il entendit parler de Jésus et lui envoya quelques anciens des Juifs pour lui demander de venir sauver son esclave. Ils arrivèrent auprès de Jésus et le supplièrent d'une manière presque pressante en disant « Il est digne que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a construit notre synagogue. » On va déjà commencer par là. Alors, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est qu'il est dit que ce centurion aimait son esclave. Pourquoi il a cherché Jésus ? Parce qu'il aimait. Alors je me suis dit, waouh Seigneur, donc l'amour c'est important. Il aimait l'esclave. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait encore ce centurion ? Il est allé chercher les anciens, quelques anciens des Juifs. Et voilà, ce centurion savait qu'il y avait un protocole, qu'il y avait un ordre dans le Seigneur. Et donc il savait que, ben voilà, il lui-même était centurion, d'ailleurs il le dit dans Matthieu, il le dit mieux. Il dit voilà, moi je sais, t'inquiète pas, dis juste une parole, parce que moi je suis sous autorité de César, je sais très bien que César, voilà, moi je suis, si je suis sous autorité, j'ai l'autorité qui vient d'en haut. Donc lui, ce qu'il voulait, c'est que ça marche. Alors il savait très bien, en étant en autorité, que s'il voulait que ça marche, ben il fallait respecter les circuits d'autorité. Et lui-même, étant une autorité, il reconnaissait l'autorité de Jésus. Et donc, il a cherché les anciens. Et qu'est-ce qui se passe quand on honore l'autorité ? Ça, c'est très intéressant. Ils se sont mis en quatre, les anciens. Ils ont essayé de convaincre Jésus. Ils ont dit, tu sais, Jésus, il est digne que tu lui accordes cela. Car il aime notre nation et c'est lui qui a construit notre synagogue. Waouh ! Ce centurion, il aimait son esclave. Il aimait Israël. Mais il l'aimait en action. L'esclave en action, ben il s'est mouillé, il est allé chercher Jésus. Il aimait Israël, ça s'est vu, il leur a construit la synagogue. L'amour en action. Donc tu dis, waouh, oui, l'amour c'est important. Le respect de l'autorité, c'est important. Et Jésus s'en alla avec eux. Et il n'était plus très loin de la maison quand le centurion envoya des amis dire, « Seigneur, tu ne prends pas tant de peine, car ce serait trop d'honneur pour moi que tu rentres sous mon toit. » Il était humble. Il était humble. Il ne voulait pas déranger Jésus. Mais son amour pour son esclave était tellement pressant qu'il a quand même fait la démarche, mais selon le protocole. Car je suis moi-même soumis à l'autorité de mes supérieurs et j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un va et il va, à l'autre vient et il vient. Et à mon esclave, fais ceci et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il s'étonna à son sujet. Se tourna vers la foule qui le suivait et dit, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. » Dans d'autres versions, il dit une si grande foi. Qu'est-ce qui faisait que cette foi était si grande ? Elle était alliée avec l'humilité et avec l'amour. La foi sans amour et sans humilité, je ne suis pas sûre que ça nous emmène très loin. L'amour, notre moteur, l'amour. Si votre moteur ce n'est pas l'amour, c'est que vous n'avez pas reçu la plénitude de l'amour de Dieu. Alors restez pas seul. Venez, cherchez dans la parole, demandez conseil, comprenez les profondeurs de l'amour de Dieu pour vous. Ni la mort, ni la vie, ni les puissances, ni les autorités, ni les dominations, ni les obstacles, ni les épreuves ne peuvent nous séparer de l'amour de Christ. Il a tout accompli parfaitement. Mais c'est à nous d'aller prendre. Alors à chaque fois qu'on disait, je ne comprenais pas. Et en fait, prendre, c'est-à-dire que tout est disponible, Jésus, il a tout fait. Mais il attend nos prières, il attend que nous soyons en action. Et quelqu'un d'autre avait pris la cananéenne. Vous savez, la dame qui va vers Jésus. Et elle lui dit, sauve ma fille, elle a un esprit, elle a un démon, prie pour elle. Et là, Jésus lui dit non. Alors, on le trouve dur. Il lui dit non. Pourquoi Jésus lui a dit non ? Ben, d'un coup, je réalisais, parce qu'elle n'a pas suivi le protocole. Et Jésus ne faisait que ce qu'il voyait faire à son père, et il suivait toute la loi. Donc, quand cette cananéenne lui a dit, viens, prie pour ma fille, il a dit non, il ne pouvait pas. Parce que la loi, à ce moment-là, elle n'était pas encore morte, et c'était que pour les Juifs. Donc, il a dit non. Il ne pouvait pas aller contre la volonté de son père. Alors elle a argumenté, tout ça, dit oui, mais elle dit les chiens. Et finalement, elle a parlé des miettes, donc à la fin, Jésus l'a fait. Et là, j'ai fait waouh ! Waouh ! Et les autorités, souvent on a connu l'autoritarisme, alors ça nous a rendu frileux. Mais les autorités, pourquoi elles sont là ? Parce que Dieu, il a un projet d'ensemble. Il y a un salut pour un corps entier. Si chacun fait ce qu'il veut comme il veut, ben mes amis, on n'en est pas sortis. D'ailleurs, ça me faisait rire parce qu'à chaque fois, Vincent, qui fait partie de la nouvelle génération, il avait des remarques. Je dis, mais attends, et je vois déjà dans la mentalité de nos jeunes, ils ne savent pas pourquoi. Je dis, mais pourquoi, au fait, mais pourquoi ça? C'est important le respect de l'autorité. C'est important les protocoles. C'est important le code de la route. Sinon, vous allez rentrer dans n'importe qui tout le temps. C'est pas pour nous embêter, c'est pour que nous atteignions la cible, c'est pour que nous puissions être prêts tous ensemble, c'est pour que la gloire de Dieu descende, c'est pour que les malades soient guéris, c'est pour que Jésus revienne. Mais il ne va pas revenir au milieu d'un boxon et de gens qui se trucident les uns les autres. Alors que le Seigneur nous fasse grâce. Encourageons-nous les uns les autres. Prions les uns pour les autres. Et si on a mal, eh ben c'est normal, mais cherchons quelqu'un pour prier avec. Couvrons, soyons des sacrificateurs. Et tout à l'heure, Romulo avait vraiment à cœur, il sentait le cœur du Seigneur qui voulait être touché par le pardon. Tu veux le partager, Romulo? Et je propose juste qu'on laisse le Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous te confions ces moments et conduis-nous, fais descendre chacun, tu as besoin de nous éclairer chacun pour notre part dans des choses différentes, mais on veut vraiment s'aligner à ta parole, nous bénir Seigneur, te bénir. Et il y avait encore autre chose qui était incroyable quand Rick Joyner était donc, il voyait le ciel pleurer. Et pourquoi le ciel pleurait? Le ciel pleurait parce que Dieu pleurait. Et pourquoi Dieu pleurait? Parce que sur terre quelqu'un au milieu de l'épreuve l'adorait et le louait. Et ça touchait et profondément le cœur de Dieu.
Dieu, t'as mis dans mon cœur cette mot pardon. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu me dis pardon? Tu veux que je... pourquoi cette pardon? Parce que Dieu me dit, je veux que mon peuple avance dans ce niveau, dans cette nouvelle étape de sa puissance. Mais pour qu'il verse cette puissance sur nous, on doit être guéri et être libre. Ce vendredi, j'ai reçu cette mot liberté. Dieu veut qu'on marche dans cette liberté, mais qu'on guérisse cette blessure qu'on a dans notre cœur. Si maintenant vous sentez dans votre cœur de demander pardon à quelqu'un, il faut le faire. Il ne faut pas attendre. Parce que Dieu a des grandes choses pour vous, pour nous, pour moi, pour chacun de nous. Si tu dois pardonner à quelqu'un, fais-le. S'il n'est pas là, fais-le prophétiquement. Si tu dois pardonner à ton frère, ton père, etc., ou quelqu'un voisin, je ne sais pas qui. Mais il faut le faire. Parce que le cœur de Dieu, c'est ça. Je pardonne. Parce que lui nous a pardonné. Sans rien faire de tout. Imaginez, qui suis-je pour dire je ne peux pas pardonner? Dieu veut toucher ton cœur maintenant. Peut-être il y a quelqu'un qui t'a dit quelque chose inconsciemment. Mais dis, je te pardonne. Si tu as besoin de demander pardon, fais-le. Tu n'attends pas. Parce que Dieu va couler. Sa grâce va couler son feu sur toi. Moi, je vois maintenant que Dieu, il est là à côté de toi. Il a sa main sur toi. Il a sa main sur toi. Il te dit, mon fils, moi, je t'aime. Il ne montre pas juste son amour avec des mots, mais il a fait des actions pour montrer qu'il t'aime avec son cœur. Moi, je voudrais être le premier. Si moi, je blessais quelqu'un, si moi, je dis quelque chose à toi, ou à toi, ou à toi, ou à toi, si moi, je blessais ton cœur avec mes mots, avec mes actions, je te demande pardon. Sincèrement, je te demande pardon. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Parce que moi, je veux le feu de Dieu en moi. Moi, je veux cet esprit de Dieu avec sa puissance en moi. Et c'est ça que Dieu veut pour toi aussi. Tu es important pour Dieu. 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 Si tu as pardonné quelque chose à tes parents, fais-le à ton père. Parce que c'est en temps maintenant de dire je te pardonne ou je te demande pardon. Parce que Dieu veut passer dans cette étape de sa puissance. De sa puissance. Parce que Dieu veut montrer sa gloire à tes cieux maintenant, au nom de Jésus. Tora Yashira Barahaya. Tora Yashira Barahaya. Tora Yashira Barahaya. Moi, je vois la puissance de Dieu qui se balade parmi vous. Qui veut être touché maintenant? Si tu veux être touché maintenant, lève-toi. Tora Yashira Barahaya. Et dis à ton Père, moi je veux être touché par toi maintenant. Tora Yashira Barahaya. C'est le moment. On avance par la foi. On est des enfants qui avancent par la foi. On ne voit pas, mais on croit. On est des enfants de Dieu. Papa, moi, je veux être touché par toi, pour ton amour, par ta grâce, par ta puissance. Viens, papa. Viens avec ton feu sur moi. Torayashira barahaya. Torayashira barahaya. Descends, papa, descends. Je suis là, je attends. Jure mon cœur pour toi. Jure mes pensées pour toi. Jure mon cœur. Papa, parce que depuis longtemps, je t'attends, papa. Je pardonne. Je veux marcher dans cette liberté. Dans cette liberté que tu donnes, papa. Yo quiero ser libre. Yo quiero ser libre. Je veux être libre, papa. Je veux faire plaisir à ton cœur. Je veux faire plaisir à ton cœur, papa. Reçois maintenant, reçois. Parce que l'onction de papa est sur toi. Torayashira, n'hésitez pas maintenant, c'est le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. C'est ta journée aujourd'hui. C'est pas demain, c'est aujourd'hui. Torayashira barahaya. Torayashira barahaya.
Seigneur, alors qu'on vient pour cette sainte scène, on veut, en tant que sacrificateur, te demander pardon. Seigneur, pour ce qui est au milieu de nous et qui ouvre des brèches, nous pardonnons et nous te demandons pardon. Seigneur, pour les manques d'alliance, pour les jugements. Et on te demande pardon pour les attentes que nous avons placées les uns sur les autres, au lieu de les placer sur toi. Seigneur, nous reconnaissons que c'est toi qui es notre soutien. Et on veut libérer nos frères, nos sœurs, des attentes qu'on a pu poser sur eux. Et ensemble, nous voulons redire, tourner nos regards vers toi. Dire oui Seigneur, nous replaçons tout à nouveau toute notre confiance en toi. Moi, il m'est arrivé un temps de ma vie d'avoir perdu cette confiance et d'avoir même cru avoir perdu le salut, jusqu'à ce que je comprenne que c'est la confiance que l'ennemi m'avait volée. Et Seigneur, je te prie, s'il y en a au milieu de nous qui ont perdu cette confiance en toi, nous voulons te demander pardon pour eux. Et nous te prions, Seigneur, restaure cette confiance.